Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour mon plug des aventures d'un entrepreneur en IA
au Québec.
Épisode 1. Alors, c'est quoi ça, un plug? Donc, l'idée m'est venue parce que j'ai lancé un vlog au début de l'année que j'ai dû arrêter après 4 ou 5 épisodes parce que c'était franchement beaucoup de travail de filmer, tourner, monter, partager, liker, tout ça. Mais j'avais vraiment envie de partager, en fait, le day-to-day en bon français de ce que c'est d'être entrepreneur en tech ou whatever. Comme je dis, j'ai essayé de le faire, c'était un peu compliqué. Je pense que c'était bon. J'aurais aimé ça, avoir une équipe de tournage et un réalisateur et un monteur et tout ça, mais la vie étant ce qu'elle est, je n'ai pas ces ressources pour me filmer et avoir juste du plaisir à me regarder. Donc voilà, j'ai arrêté ça et j'ai eu l'idée en fait de faire un genre de vlog, un genre de blog, mais en podcast, donc un plug. Et là, je dis toutes les semaines à suivre. J'aimerais ça que ça soit toutes les semaines, faire un 5, 10, 15 minutes de, sur un sujet précis de ce qui arrive chez CapGPT, les bons, les moins bons côtés, tout ça. Et au cours des prochaines semaines, prochains mois, ben, continuer à poster ça sur la chaîne de mon podcast. Donc voilà mon nouveau petit concept peut-être pour 2025. Je commence maintenant parce que en fait je suis dans le bilan de fin d'année et les objectifs pour 2025. Donc pour vous mettre un peu en contexte, si vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas CapGPT, vous ne connaissez pas Capture, oui, ou si j'ai un petit peu mal à la gorge, donc ça se peut que je tousse. Comme ça, je vais essayer de me muter la prochaine fois pour pas que ça vous écorche les oreilles. Donc, je parlais de mettre un peu en contexte. CapGPT, j'ai parti l'entreprise, ça fait depuis 2019 que ça existe en mars, donc presque 6 ans. J'ai passé une entreprise qui s'appelle Fluxion Conseil, une entreprise avec laquelle j'ai fait du conseil en sciences des données, intelligence artificielle, avec toutes sortes de firmes. À la base, mon idée était d'aider les PME à faire le passage vers l'IA. Ça s'est plus ou moins passé comme ça. J'ai plus travaillé avec des grosses firmes, Equifax, Québecor, Boston Consulting Group, qui a été un de mes meilleurs contrats avec... J'ai pu aller à Los Angeles, c'était très, très plaisant. Donc, j'ai fait ça pendant un bout et 1er avril 2022, en fait, j'ai sorti un chatbot qui parlait québécois que j'ai appelé CapGPT. Et c'est devenu semi-viral. Ça a été mon moment de gloire. J'ai été invité à des podcasts, j'ai été features sur le sac de chips. Ma mère était... ma foi, plutôt fier. J'ai eu 12 000 requêtes, je pense, le premier week-end, un truc comme ça. Donc, CapGPT a été un petit succès et j'ai eu beaucoup de plaisir, en fait, à travailler avec l'API d'OpenAI que je connaissais déjà, que j'avais déjà travaillé avec dans le passé, même pré-ChatGPT. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un changement dans ma pratique parce que je faisais un petit peu de tout. Je me suis dit, je me nichais un petit peu autour des grands modèles de langage, des LLM, de l'IA générative. Puis j'ai commencé à développer des solutions pour les PME finalement. T'sais, revenir à cet amour des PMLE par rapport à la grande entreprise. Donc voilà, j'ai fait ça en 2000... C'était en 2023 en fait que j'ai fait ça. Ah, ça fait 2 ans le ChatGPT. Ouais, c'est ça. Ça va faire 2 ans, 2025. Fait que c'était en 2023, 1er avril. Et petit train va loin quand j'ai commencé à développer pour les PME comme ça. Écoute, je trouvais qu'au final, J'ai fait un gros contrat pour une grosse entreprise. Donc voilà, ça revient toujours un petit peu à ça. Je trouve ça dur, en fait, de faire du développement sur mesure pour la PME, pour plusieurs raisons. Probablement, ils ont moins les budgets pour se payer ça, sont moins habitués de travailler dans ce genre de contexte-là. Donc, par la suite, il y a de la maintenance et tout ça. Plein de choses qui sont plus difficiles pour ce type d'entreprise-là. Pour en être venu, en fait, au résultat de me dire, si tu veux servir la PME réellement, tu dois en fait créer un produit que tu es capable de mettre à l'échelle et de scaler en fait bien des choses, de partager en fait la maintenance entre une centaine d'entreprises, par exemple, pour que ça leur coûte quelque chose qui est raisonnable pour eux. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on a fait. C'est ça que j'ai eu cette idée-là à l'automne dernier, en 2023, de partir en fait Capture, qui est un chatbot. Pourquoi un chatbot? Ben, on se faisait, tu sais, c'est quand même la mode du chatbot depuis ChatGPT et grosso modo, c'est un peu la base. C'est un produit simple à comprendre, c'est un produit que les gens ont déjà utilisé ou utilisent avec justement ChatGPT et autres. Donc, on a parti Capture, qui est un chatbot de capture de lead. On avait trois idées à la base, qui étaient trois peut-être cas qu'on aurait pu faire avec, qu'on aurait pu, disons, industrialiser dans le domaine des chatbots. Il y avait l'expert interne qui aurait pu être connecté à toutes sortes de choses à l'interne, toutes les documentations à l'interne qu'on aurait pu vouloir connecter. Après ça, il y avait le support client et il y avait le chatbot de capture de lead. Excusez-moi, j'ai toussé. Donc, chatbot de capture de lead, pourquoi? Ben parce qu'on ben je trouvais que c'était plus proche du ROI. C'était capable de quantifier la valeur d'un lead. Si on est capable d'aller chercher un lead de plus à partir de ton site web par semaine, peut-être que c'est super rentable et t'es super satisfait. Par rapport au prix que ça coûte. Donc, le ROI était quand même facile à calculer. Par rapport à le support client, c'était plus dans une idée de diminuer les coûts, qui est toujours une course vers le fond. Là, tu ne pourras jamais plus diminuer les coûts que qu'est-ce que ça coûte. Et l'expert interne, ben là, c'est comme augmenter la productivité, mais ça commence à être un peu flou, honnêtement, ton retour sur investissement. Donc, tu t'éloignes de plus en plus de quantifier ça. Donc, on a parti Capture qui est un, comme je viens de dire, un chatbot de capture de lead. Qu'est-ce que c'est un chatbot de capture de lead? Donc, c'est un, on dit même plus chatbot maintenant, hein, parce que chatbot, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est un agent IA conversationnel qu'on met, entre autres, sur le site de nos clients. Ça peut être aussi ailleurs, messages textes, réseaux sociaux. Et qui vient répondre aux questions, donc c'est en mode FAQ à la base, mais qui est entraîné, on lui donne des instructions de venir poser des questions de suivi et à un certain point de venir demander, de faire un appel à l'action. Donc, appel à l'action, la majorité du temps pour nous, c'est pour planifier une rencontre avec les gens d'entreprise. Donc voilà, c'est un produit en trois niveaux. Donc, il y a les instructions, il y a sa base de connaissances, il y a ses actions. On vient créer une base de connaissances, par exemple, avec les produits de l'entreprise, avec sa mission, ses données de marketing, ses textes marketing, son client type. Et maintenant, on a aussi ajouté, par exemple, les inventaires dynamiques. Donc, on travaille avec des gens dans l'automobile. On va aller dynamiquement mettre à jour les voitures qui sont disponibles pour que le chatbot connaisse en temps réel tout ça. Donc voilà. Et de l'autre côté, c'est connecté avec les systèmes de prise de rendez-vous, les CRM, tout ça. Donc, c'est la proposition de valeur qu'on a, qui a eu un fit sur le marché. Donc, on n'a pas pris un gros risque dans le sens qu'on n'est pas parti sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Par contre, la majorité des... J'en ai pas vraiment vu non plus qu'il y avait ça, mais l'idée était, disons, acceptée peut-être. Ou en tout cas, je trouvais que le risque du fit de marché, le fameux product market fit, était assez faible. Ce qui est positif dans le sens que tu as moins de risques que ça ne marche pas, mais qui est négatif. On n'invente pas un nouveau concept. On n'a pas inventé Uber ou Airbnb avec ça. Donc voilà, c'est tel que tel, mais moi ça me dérange pas. Je ne suis pas en business pour révolutionner nécessairement ce qui se fait. Ou allons dans le marché, parlons aux gens, puis quand on comprendra mieux les problématiques, on pourra potentiellement justement révolutionner quelque chose en comprenant mieux les besoins. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on a parti Capture, parce qu'on avait nous-mêmes ce besoin-là de planifier davantage de rencontres à partir de notre site web. Donc, on en a mis un premièrement sur notre site web. Dans l'idée, en fait, à la base, d'aider plus les entreprises en B2B, parce que je venais de ce monde-là, du B2B, bookez-moi sur mon Calendly, on va avoir un meeting, puis on va regarder à partir de là, le cycle de vente commence avec cette prise de première rencontre. Maintenant, on a fini avec des clients B2B, B2C. Le B2C, il y a plus de métriques de vanité, donc le vanity metric, dans le sens que dans les entreprises B2C, il va y avoir plus de volume de discussions sur les sites web, il va y avoir plus de rendez-vous qui sont pris, mais souvent le ticket, donc ce qui est vendu, coûte beaucoup moins cher. Donc, dans certains cas, on a peut-être idée que le chat fonctionne moins « ish », mais si en B2B, tu gagnes un client à 50 000 parce qu'il y avait ça sur le site, ouais. Mais le ROI semble être meilleur avec le B2C, c'est plus facile à vendre tout ça. Donc, on va se focusser, si c'est un mot en français, on va focus en 2025 plus vers le B2B. Le B2C, excusez-moi. Je me parle moi dans mes trucs. Donc, voilà pour la petite intro sur CapGPT, sur Capture, sur moi. Ben moi, Charles Montigny, je peux vous parler de moi personnellement. Scientifique de données, de formation ish. Là, j'étudie en sciences économiques, je m'étais spécialisé en économétrie à la maîtrise et j'adorais programmer. Là, j'ai grandi là-dedans. Mon père avait l'entreprise de développement logiciel, il était ingénieur de logiciel lui-même quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on est à la retraite, mais j'ai aussi la chance de qui m'aide à apprendre le SQL puis un peu les bonnes pratiques logicielles. Ça m'a aidé à faire le saut des stats, l'économétrie vers la science des données. J'ai travaillé 2 ans chez JLR, une firme qui a été achetée par Equifax. C'est comme ça que j'ai fait le saut vers l'entrepreneuriat. C'est quand ça a été acheté, ils m'ont proposé un package de rétention. J'ai transformé ce package de rétention-là en un contrat avec mon entreprise. Donc, ils disaient que ça ne se faisait pas. Moi, je leur ai dit, tout se fait. Allez! Donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendu à être aujourd'hui CEO de CapGPT. C'est un peu un gag. Je réfléchis à peut-être tuer cette marque. À suivre. Ou du moins, la mettre un peu plus derrière puis utiliser davantage le nom de produit Capture et potentiellement un nouveau nom de produit pour une niche. Là. Je peux pas vous le dire. C'est pas encore sorti, mais ça s'en vient. En 2025. Maintenant, bilan et objectif pour l'année prochaine. Je suis là-dedans. Tu sais. Le bilan, c'est hyper important. Tu vois, j'allais faire mes objectifs l'année prochaine sans faire mon bilan. Et au final, c'est vraiment plus long à faire que je pensais. Là. Je suis en passé à travers presque chaque rencontre client que j'ai eue durant l'année. On a parlé, toute l'équipe, à peu près 250 entreprises. Donc, c'est beaucoup de monde. Et on est capable de sortir du quantitatif de tout ça, ce qui est aussi, ma foi, vraiment intéressant. Donc, c'est ça pour faire des bons objectifs. Je pense qu'on va repasser sur un bon bilan. C'est hyper important. Donc, je suis là-dedans. Je vais en parler dans les prochaines semaines du blog. et aussi des objectifs pour 2025. Une erreur que je ne ferai pas en 2025, ça serait d'avoir des objectifs un peu trop sortis de nulle part. L'année dernière, quand j'ai parti justement, mon vlog, c'était autour du 50 000 de dollars récurrents par mois. Donc, j'avais ce chiffre en tête qu'on allait finir l'année avec 50 000 de dollars récurrents par mois. Ça venait de où, 50 000 de dollars récurrents par mois? Ça venait de des meilleures années de consultation de développement sur mesure où, je pense, en novembre 2022, j'avais fait 50 000 de revenus en un mois, qui était incroyable quand même. Ceci étant dit, c'était 4 ans in que j'avais réussi à faire ça. Et là, moi, je me disais, c'est mon nouveau standard. Maintenant, je fais 50 000 de revenus récurrents si je me force un peu. Donc non, on n'a pas atteint 50 000, même pas proche. C'est quoi la problématique avec ça? C'est que l'objectif était tellement loin de la réalité, ou du moins de ma réalité avec mes compétences que j'avais et ma compréhension du monde SaaS, là. Peut-être si quelqu'un qui était super bon en SaaS était parti la même business que moi, aurait été capable de se rendre à ce chiffre-là. J'ai eu plein d'apprentissages à faire niveau produit, niveau vente, tout ça, là. Donc, est-ce que c'était réaliste pour moi? Absolument pas. Et c'était tellement loin que ça finit par pas être démotivant, mais à perdre l'objectif, tu sais. En 2025, je ne ferai pas la même erreur et je vais mettre des objectifs par rapport aux données que j'ai aussi aujourd'hui, plus réaliste. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris de cette première année en mode SaaS? Parce que j'ai fait quand même un gros changement. Là, au final, dans toutes les autres années de ma vie d'entrepreneur, j'ai vendu soit des projets, soit mon temps, mais des trucs fixes. Excusez-moi, je tousse un peu encore et là, j'ai réussi à me mettre en sourdine. Donc, ce que je disais, c'est que dans les 4-5 premières années de mon entrepreneuriat, j'ai vendu des trucs fixes. Là, je vends un produit qui est sur une récurrence. Donc, c'était vraiment un gros changement de ce que je fais au jour le jour. Je dois vendre constamment, dans le sens que si on voulait se rendre à 50 000 de revenus récurrents par mois, par exemple, il m'aurait fallu des plus que 100 clients. Ça veut dire plus de 100 ventes. Et j'avais aucune idée que un standard de l'industrie sans B2B, ça, c'est à peu près de gagner 20% des clients qui rentrent. Donc, je sais même pas ce que ça veut dire exactement. Tu vois, nous, on qualifie, puis en tout cas. Mais tout ça pour dire que 20%, ça veut dire que j'aurais dû parler à au moins 500 personnes et leur... Donc, j'en voulais 100, ça fait 500$ par mois. On n'aurait même pas été capable de livrer ça. Tu sais, à la fois, j'aurais pas été capable de le vendre, on n'aurait pas été capable de le livrer. Donc, parce que c'est un SaaS quand même. À la base, full service, on a fait peu de développement à la base et on l'a développé pendant l'année. Donc, il y avait peu de risques, honnêtement. Je suis assez fier de ce modèle d'affaires. C'est du moins, on était capable de faire quelque chose qui avait de la valeur en une seule. Parce qu'on avait beaucoup d'expérience là-dedans. Mais ceci étant dit, on a quand même été capable de faire ça en une semaine. Et après ça, de le vendre et d'essayer de le vendre s'il y avait un intérêt. Donc, qu'est-ce que j'ai appris cette année? Ben, premièrement, que c'était une bonne idée de faire ça comme ça et de ne pas passer genre 6 mois à développer quelque chose pour peut-être essayer de le vendre après et après ça se rendre compte que c'est pas exactement ça qu'on a besoin. Mais sinon, plus spécifiquement, côté marketing, parce que comme je dis, on a dû aller et se marketer beaucoup parce que quand je dis marketing, c'est prospecter. Là, je suis un assez grand fervent du Core Four de Alex Hormozy, qui est l'idée qu'il y a 4 façons d'aller chercher des nouveaux clients. Soit les gens que tu connais personnellement, tu vas leur parler en 1 à 1. Les gens que tu connais tu leur pousses du contenu, donc sur les réseaux sociaux. Puis par connaît, ils peuvent dire genre, que tu as un lien avec eux sur une plateforme. Les gens que tu connais pas, tu peux leur parler un contre un à un, genre cold call. Puis les gens que tu connais pas, tu peux leur parler à plusieurs à la fois, donc la publicité. Donc publicité, outreach, cold, réseaux sociaux, puis juste activer ton réseau. C'est techniquement les quatre façons d'aller chercher des nouveaux clients. Et après ça, d'autres gens peuvent faire le core four pour toi. Genre, si tu as des partenaires qui ont du référencement, ils peuvent faire ça aussi. Donc voilà, donc j'ai commencé à ça. Puis une des choses qui m'a, du moins quand je lisais son livre, il y a une partie, tu peux lire un livre puis tu peux le vivre. En le vivant, tu te rends compte qu'il y a des choses qui marchent pour vrai. Donc, tout ce qui est le outreach cold, que ce soit au téléphone ou par courriel, fonctionne, ma foi. C'est ça qui nous a ramené la majorité de nos ventes. Donc, plus de 50% de nos ventes sont passées par ce canal-là. Après ça, évidemment, les réseaux sociaux, je le savais que mon LinkedIn allait fonctionner. Ça a marché, ça nous a généré peut-être le deuxième plus haut niveau de vente. On a eu des partenaires qui ont fait la même chose. On a fait des pubs, que ça n'a pas du tout marché, mais on n'a pas assez itéré, j'imagine. Ça a été peut-être la partie que j'ai pas mis assez d'efforts dessus. Tu sais, j'étais un mauvais client pour l'agence avec qui je travaillais. Donc, ça m'a demandé plus de focus, de pas juste essayer de pitcher de l'argent un peu à gauche, à droite. On a eu des leads qui rentraient, mais pas de vente de ce canal-là. Donc, c'est ça. On essaie vraiment les quatre aspects. Ils ont tous fonctionné dans le sens qu'ils ont tous rapporté des leads, mais ils n'ont pas tous eu des ROI similaires. Donc, pour la suite, mieux tracker, peut-être faire du mesurer davantage ces canaux-là et faire davantage de ce qui marche, puis changer ce qui ne marche pas pour le faire fonctionner. Parce que la réalité du core force qui peut être super intéressant avec ça, c'est que tu es assez diversifié dans ta façon d'aller chercher de nouveaux clients. Si tu... moi, l'affaire qui me fait capoter à chaque fois que je parle avec des prospects, c'est quand ils me disent « Ah, nous, on fait juste du bouche-à-oreille. » Ouais. Mais tu sais, le jour que le bouche-à-oreille ne fonctionnera plus, tu vas être un peu pogné. Si tu as ton bouche-à-oreille, donc tes contacts que tu connais, mais tu as aussi du bon contenu sur les réseaux, tu as aussi une équipe qui fait de la prospection pour toi, puis tu as aussi des pubs qui fonctionnent, tu as bien moins de chance. Tu es diversifié, c'est comme un portefeuille d'investissement. Tu es diversifié dans ta façon d'acquérir des clients. Ben là, il va moins t'arriver des périodes à sec. Donc, c'est ça. Donc, ce que j'ai appris par rapport au marketing, ben, c'est que ces méthodes-là fonctionnent. Il faut juste bien les faire. C'est pas facile à faire. Puis on peut passer en fait à la partie de vente, justement, parce que c'est pas juste de rentrer des clients, mais aussi de rentrer des leads, mais aussi de leur vendre. Au final, je suis assez satisfait de mes performances personnelles. Donc, j'ai été à 35% de taux de fermé gagné avec les rencontres que je faisais, ce qui est vraiment super dans le sens que c'est beaucoup plus élevé que le standard de l'industrie. J'ai l'avantage d'être le founder de Care, de pouvoir donner ce que le client veut, dans le sens que s'il me parle d'une fonctionnalité qu'il faut absolument... En tout cas, je pense que j'ai un avantage d'être le fondeuse. Tout ça pour dire que même si c'est un chiffre vraiment élevé, 35% par rapport à ton 20%, c'est 15 points-là de pourcentage, ça représente 75% plus. C'est vraiment élevé. Ça veut quand même dire que deux fois sur trois, quand je rentre dans une rencontre avec un prospect, ça ne marchera pas. La majorité du temps, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut apprendre à vivre avec, avec le rejet. J'étais, quand je travaillais en consultation, je visais que 80% de mes offres de service allaient être acceptées. Puis je m'étais fait dire ça par un coach. J'étais comme, OK, man. J'en faisais un peu moins. Puis c'est correct aussi parce que c'est beaucoup de travail de les faire, mais c'était le visé était à 80%. Maintenant, on n'est vraiment pas là parce qu'on se... Juste des gens qui en parlent, que ça n'a pas rapport, là, dans le sens que pour eux, peut-être ça ne fonctionne pas, puis ils ne sont pas là, puis tout ça. Surtout dans les canaux plus à froid, là, comme le cold call, peut-être que dans 6 mois, ils vont nous rappeler. Mais bon. Donc voilà pour la vente. C'est challengeant, je dis bon chiffre, ça veut juste être continuer de ce côté-là et trouver plus de leads parce qu'au final, c'est un bon taux de closing. Qu'est-ce qu'il te faut, c'est davantage de gens qui sont intéressés à ton produit. Maintenant, niveau succès client, une chose qu'on comprenait peut-être pas à la base, c'est la différence entre ça fonctionne et ça fonctionne. Et là, ce que je veux dire par là, c'est notre produit fonctionne. Il est sur le site, si tu vas y parler, ça fonctionne. Mais le client, il s'en fout que ça fonctionne. Le client, ce qu'il veut, c'est que ça convertisse des leads. Et là, il y a des trucs qui ne sont pas dans notre... il n'y a pas tout qui est dans notre cours. Donc, nous, dans le meilleur des mondes, on trouverait des clients pour qui ça va fonctionner. Dans le sens que si tu as peu de volume sur ton site web, s'il y a peu de gens qui viennent sur ton site web, ça ne va probablement pas marcher juste parce que c'est aussi un numbers game. Donc voilà, c'est intéressant quand ça fonctionne. C'est intéressant quand le client a déjà du bon marketing, puis c'est là qu'on a en fait une bonne interaction. C'est lorsqu'il y a déjà des gens qui viennent, fait déjà des pubs, fait déjà du SEO, fait déjà des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont sur son site web, des bons leads et tout ça. Donc voilà, c'est ça. Puis ça nous aide aussi de mieux le tracker et peut-être de trouver des aider, des épauler du côté marketing si c'est pour ne pas fonctionner. Donc voilà que succès client et ce qui m'amène à qu'est-ce que je vais faire de différent en 2025. Clairement, je veux mieux mesurer tous ces aspects-là. Marketing, vente, succès client, finance. Je me crée un gros dashboard et je vais me le noter parce que c'est vrai que j'ai commencé, mais il faut que je le termine. Donc, ce qui est un peu ironique, j'étais scientifique de données et aujourd'hui, j'ai été peu data-driven. Ceci étant dit, la première année, tu ne sais même pas ce que tu vas devoir mesurer. Là, je ne savais même pas, donc ça a été dur de partir. J'ai quand même tout gardé, les données sont là. Donc, mais aujourd'hui, je me crée des outils pour faire ce suivi-là. Donc, être beaucoup plus conduit par la donnée, donc data driven. Et simplement parce qu'à la base, tout ce qui est mesuré, juste de mesurer, en fait, ça devient meilleur. Moi, je suis persuadé, puis pour la fête moi-même, là, si je me pèse tous les matins, je perds du poids. Parce que le petit chocolat m'appelle tout ce qui s'en va. Puis avec ces chiffres-là, ce qui est important de faire aussi avec ces chiffres-là, c'est savoir que ça soit actionnable. Donc, à la fois quand tu mesures, après ça, tu fais plus de ce qui fonctionne et t'élimines ou tu réduis ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est hyper important dans ces deux côtés-là. Et je vais aussi commencer moi-même à faire des choses pour mieux me les approprier. Donc, j'ai utilisé des fournisseurs pour faire des services de marketing, de prospection, tout ça. Je vais essayer de me l'approprier moi-même pour avoir un meilleur feel aussi des clients, des gens, tout ça. Donc, On ne peut pas tout déléguer dans le sens que c'est important que je le vive peut-être un peu plus. Donc, à la fois les ventes et le marketing. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce premier plug. Podcast log. Pas bot plug. Ça serait quand même bizarre. Donc, je vais essayer de faire ça toutes les semaines. La semaine prochaine, peut-être, je vous parlerai de mon bilan. La semaine d'après, des objectifs 2025. Puis après ça, on va continuer sur la nouvelle niche. Donc, on va sortir notre marché très niché pour 2025. Puis on va, avec peut-être un nouveau branding. Un nouveau branding pour le produit. Puis c'est ça. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Honnêtement, si on ne se reparle pas d'ici là, joyeux Noël. On va se reparler. Hein. On va se reparler parce que abonnez-vous et donnez 5 étoiles sur Apple Podcasts, des balados de la pomme. Merci. Salut là.